Vous écoutez le podcast Entre les deux oreilles. Le balado en santé mentale et santé mieux-être. Une présentation de Relief. Un organisme qui vient en aide aux personnes avec un trouble anxieux, dépressif ou bipolaire et leurs proches. Relief, le chemin de la santé mentale. Voici vos animateurs. Ils sont tous les deux des visages de la santé mentale et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binette au micro. 35e épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être entre les deux oreilles. Est-ce moi ou le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus violent? Féminicide, infanticide, intimidation dans les écoles, menaces de mort sur les réseaux sociaux. Bien, tous les jours, on est bombardé, on est témoin d'actes de violence via les médias, que ce soit la radio, la télévision, les réseaux sociaux. En fait, est-ce vrai qu'il y a recrudescence de violence dans notre société comparativement à d'autres époques récentes? Bien, si c'est le cas, quels sont les facteurs sous-jacents de cette augmentation? Existe-t-il un lien entre recrudescence des actes violents et l'augmentation de la détresse psychologique? Bien, j'ai voulu en avoir le cœur net cette semaine avec mon invitée, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Mme Christine Groulx. Je lui ai aussi posé la question, comment fait-on pour juguler ou du moins réduire ce climat de grande colère et de grogne ambiante? Et finalement, bien, on aborde une question qui est très chère à mes yeux, c'est celle de la représentation de la maladie mentale par les médias, qui, bien, il faut l'avouer, attise souvent la stigmatisation des personnes vivant avec une maladie mentale. Alors, sans plus tarder, mon invité cette semaine, tout de suite après la pause, Mme Christine Groulx.
Bonjour Mme Groulx, comment allez-vous?
Bonjour Monsieur Binette, je vais très bien, merci. Et vous?
Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie beaucoup.
Ça me fait grand plaisir.
Le thème de cet épisode, je le mets en contexte, c'est la violence, c'est la colère. Du moins, je veux aborder ce que moi j'ai l'impression de voir dans les médias depuis quelques mois, voire même depuis 2 ans. C'est cette recrudescence de violence conjugale. On voit énormément de cas de féminicide dans les médias. On voit de la colère à l'école, on voit de la violence dans les cours d'école. Est-ce que vous constatez une recrudescence de la violence dans les derniers mois, dans les dernières années? Dans les dernières années, en fait, est-ce que vous constatez cette recrudescence?
On en entend plus parler, en tout cas. Okay. C'est toujours difficile à quantifier parce que pour moi, la violence a plusieurs formes. Hein. La violence, elle peut être économique, donc elle va se manifester par le vol, l'abus, par exemple, les demandes. Ça peut être physique. Puis ça, la violence physique, c'est de celle-là dont on parle souvent, hein, violence physique ou violence sexuelle, c'est-à-dire soit envers une personne, soit envers des objets ou l'environnement. On oblige, on contraint, on brutalise, on humilie, bref, ça c'est très évident. Il y a la violence verbale aussi qui est plus insidieuse puis qui se manifeste beaucoup plus en ton avec lequel on va parler, en menace verbale, des ordres qu'on va donner, du chantage émotif qu'on va faire par exemple, ou encore du dénigrement d'une personne, on va diminuer la personne. Donc ça, c'est une autre forme de violence qui est un petit peu plus insidieuse, puis qui est plus proche de la violence psychologique. Alors la violence psychologique, je trouve que c'est celle qui est la plus sournoise parce que c'est celle où justement on va, puis des fois c'est subtil, on va rabaisser, on va humilier, on va ridiculiser, on va faire peur, on va intimider, isoler, dénigrer les gens autour de la personne. Alors, c'est puis là, on s'entend, hein, quand on parle de violence, moi, je parle souvent d'actions répétitives ou de climat dans lequel ça se passe. Alors, c'est difficile de quantifier, est-ce qu'il y en a plus? Probablement, versus est-ce qu'on en parle plus? Parce que c'est sûr qu'il y en a, c'est très médiatisé. Je vais vous donner juste un exemple, mais de la violence entre enfants dans les cours d'école, il y en a toujours eu. Est-ce qu'il y en a autant que maintenant? Puis est-ce que les conséquences étaient aussi graves que maintenant. C'est sûr que quand moi j'étais enfant, des enfants qui venaient avec des armes blanches dans la cour d'école, il n'y en avait pas. Mais cela dit, il y avait parfois des coups de poing, des coups de pied, des cercles qui se faisaient autour d'un enfant. Mais il n'y avait jamais des conséquences graves de ça. Si ce n'est que le fait de ne pas vouloir aller à l'école pour certains enfants, certaines journées, là, j'en conviens.
Est-ce qu'il y a des facteurs sous-jacents à cette augmentation, du moins apparente? Est-ce qu'il y a des causes qui pourraient démontrer, en fait, qu'il y a effectivement des enjeux de violence ou une augmentation de la violence dans notre société actuellement?
Il y a plusieurs causes qui sont en jeu, à mon avis. Puis pour un même comportement de violence, on peut avoir des causes différentes ou encore plusieurs causes en même temps. Fait qu'il faut faire attention de ne pas attribuer une seule cause au comportement de violence. Et tantôt, vous avez parlé d'amalgame, puis je suis contente que vous en parliez parce que une des premières choses qu'on voit quand il y a un crime ou quand il y a un féminicide ou un infanticide, on parle nécessairement de santé mentale. Et malheureusement, effectivement, ça augmente le stigma. C'est une des causes possibles, effectivement, mais c'est une cause rare par rapport au nombre de fois où on va en parler. Puis la raison pour laquelle on invoque ça facilement, je pense, c'est que quand on n'est pas capable de s'expliquer un comportement, puis qu'il n'y a aucune explication rationnelle, on va vers les troubles de santé mentale, comme ça, c'est facile. Mais il y a quand même bien d'autres causes. Notamment, par exemple, des gens qui ont des, puis on peut mettre ça dans la santé mentale, mais des constructions de personnalité où il y a des carences très, très, très sévères. Les gens qui ont des difficultés, tu sais, dont le cerveau a du mal à s'autoréguler, à contrôler l'agressivité, les gens qui ont eu des modèles de violence, qui ont eu un modeling où c'est presque le comportement normal, et c'est même banalisé dans certaines familles. Évidemment, il y a le phénomène de la culture, parce que la violence d'une culture à l'autre, ou en tout cas ce qui est interprété comme étant un comportement agressif, peut varier d'une culture à l'autre. Puis bien sûr, tous les problèmes de consommation, puis toute catégorie de substances confondues qui vont nous amener à perdre le contrôle. Mais il y a d'autres phénomènes plus sociaux. L'augmentation de la pression sur les individus, par exemple. Le nombre d'adaptations, puis la vitesse des adaptations qui sont demandées dans les changements sociaux qu'on connaît, l'isolement social, vous savez, être entouré, c'est un facteur de protection à tous égards, hein? Et donc, les gens sont plus seuls, sont beaucoup plus isolés. Puis, tu sais, il y a d'autres phénomènes qui sont les exutoires, c'est-à-dire que l'agressivité, c'est un phénomène humain normal, mais il doit connaître des bons exutoires. Puis je vous donne des exemples d'exutoires, là, tu sais, les concours oratoires, les débats verbaux, c'est un exutoire. Le sport, c'en est un, à condition qu'on démolisse pas quelqu'un sur une glace, par exemple. Le fait de dépenser l'énergie, c'en est. Et je pense que, de façon générale, on apprend peut-être moins à faire appel à ces exutoires, ne serait-ce que dans les cours d'école.
Vous avez parlé d'un point qui m'a accroché, c'est la relation, du moins l'amalgame potentiel de ce qu'on entend dans les médias et on fait souvent des liens entre santé mentale ou du moins maladie mentale et violence. Comment fait-on pour réduire cet amalgame? J'imagine que c'est lié à la stigmatisation, c'est la peur, j'imagine, qui engendre cet amalgame. Comment on fait pour la diminuer ou la contrôler s'il faut.
En fait, moi, ce que je constate, c'est que c'est une incompréhension et ce qu'on ne comprend pas nous rend dessus. C'est-à-dire que c'est un phénomène humain. Ce qu'on n'est pas capable de comprendre, vous savez, il y a quelqu'un qui rentre un service de garde avec un autobus, c'est incompréhensible comme geste. Ce qu'on ne comprend pas nous fait peur. Parce qu'on n'a pas de contrôle dessus, on n'est pas capable de le prévenir. Donc, on essaie de trouver un sens à ça. Et ce qui vient, à prime abord, c'est un geste de folie. Donc, c'est un geste de folie. Comme ça, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Mais c'est rarement ça, en fait. C'est surtout pas toujours ça. Alors, comment on fait pour déconstruire ça? Parce que c'est tellement une petite proportion de gens qui ont des troubles mentaux qui vont commettre des actes de violence aussi graves que ça. Comment on fait pour déconstruire? Mais je vous dirais que j'ai entendu plusieurs experts, tu sais, dans les médias, déconstruire ça, puis dire, puis j'en suis, dire qu'il faut faire attention à cette causalité un peu réductionniste, puis dommageable pour les personnes qui vivent avec des troubles mentaux, parce qu'on a travaillé fort pour arrêter de craindre, vous savez, des troubles mentaux courants, on s'entend, là, on dit souvent, tu sais, dans un salon, quand on est plus que 5 personnes, c'est sûr qu'il y en a un qui va être suivi pour quelque chose. Et il n'y a
Exact.
personne qui est à l'abri d'avoir un épisode de problème de santé mentale dans sa vie. Donc, on fait souvent référence à des troubles mentaux graves, puis des troubles mentaux graves, bien encore là, c'est un phénomène rare, la violence à l'extrême. Alors, je pense que de faire de l'éducation de la population, c'est un des éléments importants. Puis l'autre élément qui aide énormément, c'est quand il y en a dans l'environnement des gens. Alors, tu sais, puis moi, je travaillais dans un hôpital en santé mentale longtemps, puis en fait, dans les directions, on avait des patients qui travaillaient avec nous, qui étaient en contact avec les étudiants, qui étaient en contact avec les résidents. Puis ça déconstruit ce mythe aussi du patient nécessairement dangereux. Parce que comme je vous dis, c'est tellement une infime proportion. Et souvent, quand il y a un acte de violence qui est grave et irréversible, il y a plus qu'un facteur en cause. Puis quand on regarde, puis là, je veux pas parler d'un cas en particulier, mais c'est rare que c'est juste un facteur. C'est rare que c'est juste un gros trouble de personnalité ou juste un gros trouble mental. En général, tu sais, il y a souvent plusieurs facteurs. La personne est isolée, la personne a des carences, la personne a des pertes importantes. Donc, a connu des pertes, a perdu son emploi, c'est dans un contexte de divorce, de séparation, consommation et en plus, peu d'amis autour. Puis peut-être qu'effectivement, il y a des éléments de troubles mentaux qui s'ajoutent, mais tu sais, il y a toujours un contexte. Il y a toujours des facteurs qui sont inhérents à la personne, puis il y a souvent un déclencheur. Et c'est quand, malheureusement, les planètes s'alignent que ça arrive, puis c'est rarement un facteur unique.
Il y a statistiques à l'appui, recrudescence actuellement de la détresse psychologique. On le voit, c'est clairement quantifié. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Je reviens à l'élément de violence, colère. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'augmentation de la détresse psychologique et l'augmentation de la violence dans notre société actuellement?
J'aurais tendance à revenir à quelque chose de très, très, très basique sur le plan biologique. Il y a plusieurs décennies, Henri Laborie, qui était un scientifique connu, avait fait un film où il avait bien démontré qu'il y avait deux contextes. Il avait démontré chez l'animal, puis il avait fait un parallèle chez l'humain, que dans une situation de mal, de détresse, de stresseur important, il y a deux comportements qu'on va observer. La fuite, donc la personne s'en va, ou encore la personne se bat. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est moins pathologique que si on reste à rien faire puis on subit. Alors donc, tu sais, c'est comme si dans le fond, de combattre, ça diminue un peu l'anxiété, ça diminue le mal-être, de pouvoir échapper à la situation, ça diminue le mal-être. Mais de pouvoir rien faire puis d'être impuissant, ça, c'est dommageable. Alors, les gens qui ont des carences, qui ont peut-être moins de moyens, qui ont moins appris à utiliser des bons exutoires, qui sont pas nécessairement entourés, qui ont personne à qui parler, et là, j'excuse rien, on s'entend, là, puis qui, en
Tout à fait.
plus, vont perdre un peu leur autocontrôle parce qu'ils vont consommer trop, ben, c'est sûr que... Tu sais, souvent, s'ils étaient capables de tolérer le mal-être, ils commettraient pas d'actes aussi graves que ça. Alors, puis, tu sais, il y a différents cas de figure, hein, parce que c'est sûr que on peut mettre le feu à une maison dans un contexte où on a un trouble délirant, puis on a une hallucination mandatoire ou une voix qui nous dit qu'il faut absolument qu'on fasse ça. Comme on peut, en désespoir de cause, tu sais, dans un contexte de rupture, dire, ben, tu sais, si cette personne-là ne m'aime plus, elle n'aimera plus personne, puis je vais m'assurer qu'elle n'aime plus personne, puis je vais lui enlever la vie et je vais m'enlever la mienne par la suite, de sorte que c'est une façon de mettre fin aux souffrances. Il y a tellement de cas de figure que c'est difficile d'en faire un cas unique. Mais chose certaine, c'est vrai que actuellement, on a tendance à voir, puis tu sais, moi je l'observe à différents niveaux. Il y a un petit peu plus de grogne, il y a plus d'irritabilité, moins de tolérance. Encore là, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à la source de ça. L'isolement, évidemment, les stresseurs qu'on a eus, parce que tu sais, pendant plusieurs années, on a vécu beaucoup d'adaptation. Il y a des changements sociétaux qui vont très vite. Les gens sont moins entourés, sont moins protégés par des familles nucléaires qui sont stables. Alors, il y a toutes sortes de facteurs qui font que, puis même au niveau de l'éducation, je vous dirais, il y a une pluralité de valeurs qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait tous les mêmes valeurs, tu sais. Et il y avait, je vous dirais, il y avait des renforçateurs assez puissants quand tu te comportais mal, tu sais. Alors que maintenant, on n'y croit plus nécessairement à ça. Fait qu'encore là, il y a, à mon avis, beaucoup d'éléments à prendre en considération. Mais il faut les adresser, ces éléments-là.
Une brève pause pour remercier nos partenaires qui supportent Entre les deux oreilles et permettent la réalisation de ce balado. Entre les deux oreilles aimerait tout d'abord remercier Relief, le chemin de la santé mentale. Au cours de notre vie, il est normal de rencontrer des hauts et des bas. Ces irrégularités façonnent qui nous sommes et nous rendent toutes et tous uniques. Mais pour les personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité et leurs proches, ces passages plus sinueux peuvent parfois se transformer en montagnes. C'est pour ça que Relief existe, pour vous aider à vivre avec votre relief à vous. Parce qu'avoir les outils pour reprendre votre santé mentale en main, c'est déjà être sur la bonne voie. Relief offre plusieurs services pour vous aider à vivre avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité. En groupe ou individuel, peu importe la voie que vous choisirez, l'approche de Relief demeure la même, le soutien à l'autogestion. Pour de plus amples détails, visitez le site relief.ca. À nouveau, pour des détails sur les services de Relief, le chemin de la santé mentale, visitez le site relief.ca, soit relief.ca. Entre les deux oreilles, j'aimerais aussi remercier InPower. InPower est une entreprise de Montréal qui se spécialise dans la mesure et l'amélioration du bien-être. InPower a développé la première application mobile d'auto-coaching qui permet à l'utilisateur de mesurer son état de bien-être physique, mental et social sur plus de 30 aspects de vie, d'intervenir sur certaines perturbations de son quotidien et de mesurer l'impact de ses actions sur son bien-être. InPower a aussi développé pour les organisations une solution intégrée et complète en matière de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être pour les entreprises qui luttent contre le présentéisme et l'absentéisme. La démarche InPower aide à améliorer le mieux-être des employés et le rendement des organisations en faisant appel aux sciences sociales, au développement personnel et à l'analyse des données. Pour connaître les bénéfices de la solution InPower pour les organisations et les humains qui la composent, visitez le site inpower.com. À nouveau, pour obtenir plus de détails, visitez le site inpower.com, inpower.com. De retour à l'épisode.
Ben, c'est mon prochain point. Comment on adresse ces éléments-là? Comment on aborde cette détresse psychologique et même à la limite, comment on aborde ceux qui en souffrent dans le contexte actuel? Comment un psychologue peut justement aborder ces sentiments de grande colère, de grogne qui pourraient amener à des gestes violents. Comment on aborde ça?
Moi, je vous dirais, il y a deux facteurs de protection quand les personnes vont consulter puis vont demander de l'aide. C'est déjà un facteur de protection parce que Quand la personne est capable de l'exprimer, quand la personne est capable de le nommer puis de le dire à quelqu'un d'autre, déjà, il y a tout un exutoire. Tu sais, je veux dire, on peut entendre ventiler puis on peut entendre toute une charge agressive, puis on peut la recevoir, puis on est formé pour ça, puis ça va déjà apaiser la personne. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément qui est un facteur de protection, c'est quand les gens sont capables de s'imaginer les choses, donc de ce qu'on appelle mentaliser. Alors, tu sais, quand on est capable de se représenter les choses en images, en fantaisie, puis de les vivre en fantaisie, ben ça aussi, c'est un exutoire. Puis j'ai moins peur de quelqu'un, moi, qui s'imagine des scénarios en fantaisie, que de quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, puis qui n'a pas de mots pour parler, ben il lui reste l'agir, tu sais. Alors, je pense que, pour répondre à votre question, il faut travailler sur quatre éléments. Et la première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de pathologiser des comportements qui sont normaux. C'est pas normal d'être toujours de bonne humeur, c'est pas normal d'être toujours doux, c'est pas normal d'être toujours gentil, mais il faut définir puis faire respecter dans une société des comportements qui sont acceptables puis des comportements qui ne le sont pas. Donc, il faut travailler sur l'éducation, beaucoup. Puis dans l'éducation, tu sais, j'entends éduquer les gens à reconnaître les signes de violence, à reconnaître les signes d'agressivité, à les reconnaître dans l'espace de la relation aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais surtout à reconnaître les conséquences de ça. Puis encore là, il faut que la personne sache quoi faire avec. Donc, c'est quoi les alternatives? Fait qu'il y a tout un volet éducation où moi, je pense qu'on devrait être davantage éduqués. Puis c'est pas juste dans les écoles, hein, c'est dans les maisons aussi. Éduquer à l'empathie, donner le sens de l'autre, développer de la compassion, développer. Mais, tu sais, là, je vous parle dans le meilleur des mondes, dans des familles fonctionnelles, puis où l'affection règne. Mais vous comprenez que les gens qui développent des comportements de violence chronique n'ont pas cette chance-là. Alors, donc, là, c'est peut-être justement dans d'autres lieux qu'il faut le travailler. Donc, notamment dans tous les lieux que l'enfant va fréquenter, que ce soit les écoles, que ce soit le club de sport, que ce soit le centre de jour, peu importe. Donc, je pense que de travailler sur l'éducation, de travailler sur la prévention, de donner des outils aux jeunes, aux enfants, aux adolescents pour dire, ben, regarde, un, on va reconnaître les signes d'agressivité qui montent. Deux, on va pas nécessairement les diaboliser, c'est des phénomènes normaux, mais on va te montrer quoi faire avec. Ça, je pense que c'est un élément important parce que tu peux pas tout casser dans la maison. Alors, c'est ce que j'appelle la prévention puis l'éducation. Puis il y a encore là, il y a plusieurs façons de faire. Une fois ce fait, on va déjà diminuer, à mon avis, la détresse, puis les sources de la détresse, parce que on laisse pas un jeune en détresse. Moi, je dis toujours, tu sais, quand tu as une détresse importante, ça fait mal. Puis ce qui fait mal, quand on l'adresse pas, ben malheureusement, ça s'aggrave. L'autre phénomène sur lequel il faut travailler, c'est l'accessibilité à des services de soutien pour les gens justement qui sont en détresse, pour les gens qui sont aux prises avec des difficultés de régulation puis des comportements agressifs. Donc, il faut travailler sur des ressources qui sont plus thérapeutiques. Alors, il faut donner accès à ces ressources-là. Puis, il faut qu'il y ait une qualité de service dans ces ressources-là. Puis, je dirais même, tu sais, faut que les recherches foisonnent dans ce domaine-là. Puis d'apprendre à quelqu'un, par exemple, que s'il y a déjà des problèmes d'autorégulation de sa colère, ben s'il consomme, ça va être pas mal pire. Puis les conséquences seront pas juste pour l'environnement, ça va être pour lui aussi, puis il va être le premier puni de ça. Donc, je pense que c'est important de faire ce travail-là. Puis pour certaines personnes, il faut travailler sur la continuité de service. D'avoir, surtout les gens qui sont seuls, qui sont isolés, qui ont eu des grandes carences éducationnelles, qui n'ont pas de modèle, d'avoir un groupe de soutien, d'avoir un lien avec des personnes qui peuvent appeler quand ça va pas bien. Tu sais, je dis toujours, l'environnement, c'est un facteur de protection. Mais quand justement tu vois plus clair, si tu appelles quelqu'un puis que ça t'aide à t'apaiser, ben, ça peut aider aussi. Alors, je pense que c'est tous des éléments sur lesquels il faut travailler. Maintenant, en contrepartie, ben, il faut aussi travailler sur les gens qui sont victimes de cette agressivité puis de cette violence. Tu sais, je pense qu'il faut travailler un peu sur toutes les parties. Et il faut montrer aux gens à reconnaître. Tantôt, je parlais des différentes formes de violence, mais il faut enseigner aux gens à reconnaître les formes de violence parce qu'il y a aussi, autant il y a des canevas de gens qui sont plus susceptibles de manifester de la violence, autant il y a des canevas de personnes qui sont plus susceptibles d'être victimes de ces violences-là parce qu'ils vont l'endurer plus longtemps, parce qu'ils la reconnaîtront pas nécessairement. Alors, auprès d'eux aussi, il faut faire de l'éducation. Puis il faut faire de l'intervention ponctuelle. Puis il faut, parce que pour ces gens-là qui sont victimes de violences, c'est souvent aussi des gens seuls, des gens isolés, puis des gens qui ont eu un modèle de se faire violenter, puis de toutes sortes de façons, hein. Des fois, c'est vraiment juste des parents plus mal pris ou plus en détresse eux-mêmes qui vont avoir comme des comportements plus violents verbalement, par exemple, tu sais, sans nécessairement passer à la violence physique. Mais donc, ça va évidemment avoir des effets, des répercussions sur la construction de l'estime de soi de la personne. Fait que je pense qu'il faut travailler sociétalement parlant sur tout ce beau monde-là. Puis, je pense qu'il faut aussi travailler sur les gens qui sont témoins. Fait que, disons ça comme ça pour simplifier les choses. On a les gens qui sont à risque de comportement agressif. On a les gens qui sont à risque d'être agressés. Puis tu as tous les observateurs puis l'environnement autour. Alors, qui
Donc, tout le
de...
monde est concerné.
Et tout le monde est concerné. Il faut que tout le monde soit concerné parce que, tu sais, les gens autour, ben, peuvent servir d'écran, de facteur de protection de part et d'autre.
Je suis vraiment interpellé par l'augmentation, on en a parlé en début d'entrevue, mais par ces féminicides. Je pense qu'il n'y a pas une semaine ou même 2 semaines qui passent sans que, malheureusement, il y a des incidents et des morts victimes de violences conjugales. On s'entend pour dire que la vaste majorité sont causées par des hommes. Moi, ça m'interpelle. Comment on réussit à aller chercher cet homme qui est probablement en détresse psychologique, qui est dans l'agir, hein, vous l'avez parlé tantôt. Comment on va le chercher avant qu'il pose ce geste fatal? Comment on brise ce cycle potentiel de violence qui a été perpétré potentiellement par l'héritage parental? Comment on fait pour aller chercher cet homme qui potentiellement pourrait causer un geste fatal?
Ben, en fait, par la souffrance, c'est souvent le moteur pour aller chercher de l'aide, c'est le mal-être. C'est le mal-être, puis souvent les gens savent pas quoi faire avec, puis les gens s'en tirent comme ils peuvent. Mais comment aller chercher? Ben, je vous dirais encore là, tu sais, avant là qu'une personne commette un geste fatal à l'âge adulte, parce qu'on s'entend que oui, la vaste majorité des crimes conjugaux, c'est des féminicides commis par des hommes d'âge adulte avec une moyenne d'âge. On le sait, ça. Mais en même temps, quand on regarde les profils, c'est pas rare non plus qu'il y a une perte importante. C'est-à-dire que soit une perte de la relation, soit une perte d'emploi, soit toutes ces réponses, c'est pas rare qu'il y a eu des comportements agressifs avant. Tu sais, c'est rare que le premier geste d'agressivité, c'est le geste de désespoir qui va tuer une personne. C'est pas une première manifestation d'agressivité. Donc, il y a eu des signes, il y a eu des drapeaux, mais qu'on a probablement banalisé. Alors, donc, souvent parce que, puis, tu sais, on peut rentrer un petit peu dans le cycle de la victime, mais souvent, tu sais, la victime, c'est toute une dynamique, là. Mais il y a quelque chose qui fait que, une personne qui est violente va trouver chaussure à son pied auprès d'une personne qui va se faire violenter puis qui va rester là très longtemps, puis des fois jusqu'à la mort. Alors, et puis souvent, la personne, tu sais, va d'abord être séduite, ensuite avoir peur, puis voir un climat de tension qui va s'installer, va minimiser ces comportements-là parce qu'elle va les trouver normaux, voire va penser qu'elle est responsable en partie de ces comportements-là, puis qu'il faudrait qu'elle se comporte autrement, va pardonner, va espérer pour le mieux. Donc, il faut sortir les gens de ce cycle-là, mais ce qui fait qu'on est dans ce cycle-là, c'est déjà que souvent, tu sais, relativement jeune, on a développé ce pattern-là. Alors, je pense que pour ça, je vous dis, si on éduque les uns et les autres, on va déjà faire Utile. Maintenant, je reviens sur les hommes dont vous parlez, puis je vous dirais, tu sais, si on les éduque jeunes, si on les entoure jeunes. Puis là, quelqu'un qui vient d'une famille dysfonctionnelle, avec des parents, par exemple, qui sont soit mal pris dans leur vie, soit qui ont des problèmes de santé très importants, soit qui ont des problèmes eux-mêmes d'agressivité importants, il faut qu'ils soient confrontés à d'autres modèles. Puis il faut qu'ils soient, puis là, c'est pas nécessairement les parents qui vont l'amener à développer ça, puis qui vont l'amener en consultation. C'est pour ça que je vous dis, l'éducation, c'est un petit peu l'affaire de tous, mais il faut qu'ils apprennent dans les écoles que c'est pas des phénomènes acceptables, puis que si il y a ça dans une famille, on voudrait le savoir. Faut que l'enfant puisse adresser ça pour ne pas perpétuer, justement, pour ne pas nécessairement se développer comme ça lui-même. Fait que c'est pour ça que, puis comment on va chercher cette personne-là? Ben, en l'éduquant pour commencer. Après ça, en l'aidant à reconnaître ces signes-là. Puis là, ça veut pas dire que, parce que ça, c'est une autre affaire. Les jeunes n'ont jamais le droit de manifester de colère. Tu sais, c'est pas normal, ça. C'est dangereux. Il faut être capable de quelqu'un qui manifeste jamais aucune forme d'agressivité, c'est quelqu'un qui va déprimer parce que tu peux pas être de bonne humeur tout le temps, puis jamais être frustré, puis toujours être content, puis jamais être fâché. Donc, ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un ait une dysrégulation telle qu'il perde le contrôle. Mais ça veut pas dire de jamais se fâcher. Fait que les gens, j'aurais tendance à dire qu'il faut leur montrer à se fâcher comme il faut, puis il faut leur montrer à se fâcher adéquatement. Il faut leur montrer à se fâcher sans faire de tort à autrui et sans faire de tort à eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire. Puis c'est ça qui est tricky, c'est-à-dire que si on dit, par exemple, tolérance zéro pour l'agressivité, que c'est qu'on dit? Mais on dit que tu n'as plus d'exutoire pantoute. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un couvert sur le presto, tout simplement. Donc, moi, j'aimerais mieux voir les gens développer des exutoires adéquats, mais pas le concept de tolérance zéro, c'est-à-dire que l'agressivité, ça fait partie de l'être humain quelque part, puis si on ne l'avait pas, on serait mort, on n'aurait pas survécu, notre espèce n'aurait pas survécu. Donc, il faut juste se dire qu'elle a une façon de s'exprimer. Maintenant, fait, je pense que d'éduquer, de faire reconnaître les signes, de montrer des exutoires acceptables, de montrer qu'il existe des ressources quand on a de la misère, justement, à s'autoréguler, puis qu'il existe des ressources, puis qu'on peut avoir de l'aide, mais c'est comme ça qu'on va chercher. Puis là, je donne quatre lieux différents où on va aller chercher cette personne-là bien avant qu'elle arrive à 40 ans, puis qu'elle ait perdu le contrôle de sa vie à toute fin pratique. Maintenant, je vais revenir sur peut-être un élément parce que je trouve que le parallèle est intéressant. Vous avez parlé des hommes, puis je vous dirais que la proportion d'hommes violents qui vont commettre des féminicides, elle est infiniment petite. Alors, faudrait pas non plus en venir à stigmatiser les hommes comme faut pas stigmatiser les gens qui ont des troubles mentaux graves. Puis je le dis parce que il faut en prendre soin de ces hommes-là, mais c'est pas la majorité des hommes.
Dernière question pour vous, Madame Grou, un peu dans un volet un petit peu plus d'espoir. Personnellement, je regarde les nouvelles. On parle de guerre, on parle de situation économique difficile. C'est déprimant. Le portrait est déprimant actuellement. Y a-t-il espoir? J'ai peut-être une question absolument ridicule, mais je cherche des sources d'espoir dans ce monde qui m'apparaît parfois très noir. Est-ce que c'est les nouvelles générations qui vont nous rééduquer d'une certaine façon, nous ramener du moins dans une certaine fébrilité, appelons-le comme ça? Est-ce qu'il y a des sources d'espoir dans parfois, ou du moins est-ce que les médias veulent bien nous représenter dans ce monde qui m'apparaît noir et déprimant parfois?
En fait, si on apprenait aux jeunes à relativiser, mais vous savez, c'est dur de relativiser quand on est exposé qu'à des choses déprimantes. Puis vous avez raison de souligner, parce que une des choses que j'ai beaucoup conseillé en période de pandémie, notamment, c'est de ne pas se surexposer aux médias. Je pense que c'est important d'être informé. Puis pour être informé, il faut trouver les bonnes sources d'information. Mais si tu écoutes tous les bulletins de nouvelles de la journée, d'abord, c'est les mêmes nouvelles, mais elles sont rarement bonnes. Fait qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et vous savez, de temps en temps, moi, ça m'arrive de demander conseil dans mon entourage pour me dire, donnez-moi le titre d'une série télé qui va me reposer puis qui va me faire rigoler, là. C'est très difficile à trouver. Et moi, je pense qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus seuls. Les gens sont très seuls. Pas beaucoup de références, pas beaucoup de, tu sais, des gens sur qui compter quand t'es mal pris, là. Donc, il y a beaucoup de solitude dans notre société. Il y a énormément de changements à la vitesse grand V. Donc, faut s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses. Effectivement, je pense qu'il y a une perte de l'horizon, de la légèreté ou du plaisir. Et faudrait le retrouver. Puis, je pense que il faut aussi travailler sur les causes. Parce que, vous savez, on traite de plus en plus de gens déprimés et de gens anxieux, mais on s'attaque pas aux causes. Alors donc, on dirait que plus on en traite, plus il y en a. Alors que d'habitude, quand on a un problème de santé, c'est le contraire. Plus tu le traites, plus tu l'enrayes. Mais là, il y a quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut. Et c'est probablement de ne pas réfléchir aux causes de tout ça. C'est comme si on est pris dans un train qui va vite, puis on dirait qu'on a de la misère à le ralentir. Mais je pense que sociétalement parlant, on aurait avantage à prendre un pas de recul, justement, pour diminuer un peu. Vous savez, le stress fait partie de la vie, mais faut être outillé pour faire face au stress. Puis faut peut-être augmenter le bon stress et diminuer le mauvais stress dans la vie, là.
Merci beaucoup, Madame Gros. J'apprécie beaucoup le moment que vous m'avez donné aujourd'hui. Sachez que je l'apprécie beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
Et ça conclut cet épisode du balado entre les deux oreilles. Premièrement, un immense merci à mon invitée cette semaine, Madame Christine Gros, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Merci aussi à nos partenaires Relief le chemin de la santé mentale et InPower. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Bien, si c'est le cas, on vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme favorite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à nous poser des questions. Bien, on aime beaucoup interagir avec vous et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. On est facile à trouver. Venez nous visiter sur notre site web au www.entrelesdeuxoreilles.ca où vous allez trouver l'ensemble des épisodes du podcast, des textes et un répertoire des ressources d'aide partout au Québec. En mon nom personnel, Martin Binette, et au nom de Lydia Mignot, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du balado en santé mentale et santé mieux-être, entre les deux oreilles.